Hop, hop, bonjour, bonjour, ici c'est Valérie Demont. Je vous prends 2 minutes avant l'écoute de votre podcast pour vous parler du workshop Leadership Conscient. Il s'agit d'une journée pour acquérir ses propres outils et repartir avec dans une série d'expériences que vous allez faire. Donc je vous propose de vivre une dizaine d'outils du leader conscient, dont certains sont des fondamentaux du leadership conscient, comme la gouvernance intérieure, et puis d'autres sont des atouts comme la relation au temps, l'activation de toutes nos intelligences, dont l'intelligence du cœur. Sur mon site, il y a la liste complète de ces outils. Vous vivrez les outils dans votre corps, votre cœur et votre cerveau, tels que 2 outils pour la gouvernance intérieure, 2 outils qui permettent d'obtenir des angles de vue différents et des changements de perspective, 2 outils pour de la bascule mentale. On va expérimenter de la pleine présence et conscience, rythme, temporalité et temps créatif aussi. C'est très, très important, en fait, cette notion du temps en ce moment. Les outils subtils, dont l'intuition et l'intelligence du cœur. Là, on en aura 3. Et puis, la capacité à faire des liens entre les différents univers. Et puis là, ce sera 2 outils qui seront expérimentés. Vous repartez avec les protocoles de ces exercices et ceux que vous choisissez de pratiquer et intégrer dans votre vie. On se retrouve ensuite un mois après pour débriefer, échanger avec les autres participants, s'enrichir des expériences de chacun pour voir en fait comment ces outils se sont posés dans votre quotidien et puis je vous donnerai du feedback s'il y a besoin d'amélioration. Si vous avez envie d'intégrer du cœur et le cœur dans votre entreprise, je vous invite à consulter le programme détaillé du workshop et vous inscrire et profiter aussi du Early Bird. Vous trouvez tout ça sur mon site valeriedemont.ch, l'onglet Leader et puis Workshop. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et en attendant, je vous laisse à votre épisode et je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite.
Je me dis qu'à un moment donné, quand les consciences seront au point où on supportera plus la façon dont on est géré, par exemple, ou de la façon dont l'économie a mainmise sur toutes les décisions, etc. Les choses vont changer. C'est pas, ça se passe toujours comme ça. Ma solution, elle passe par là. Je suis pas ni super optimiste ni super pessimiste. Je sais qu'il y a une solution. La solution, c'est qu'une majorité d'entre nous ouvre les yeux sur leurs valeurs, sur le fait qu'on est bien plus qu'une entité matérielle faite pour consommer, que le bonheur se trouve ailleurs que dans l'achat de biens matériels, que la façon d'être gouvernée doit être beaucoup plus participative que ce qu'elle est actuellement, que la finance et l'économie ne doivent pas être au milieu du projet sociétal, mais doit être un outil. Et toutes ces choses-là, il faut qu'on y vienne progressivement. Et c'est que, de toute façon, c'est un travail gigantesque qu'on doit tous faire, que l'humanité doit entreprendre, et on sera jamais assez à y participer.
Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre sans cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit.
Salut David.
Salut Valérie.
Merci beaucoup de prendre à nouveau du temps pour enregistrer cet épisode de podcast.
Avec grand plaisir. J'ai beaucoup aimé le premier, donc j'ai pas hésité quand tu m'as demandé de revenir.
Ouais, c'est vraiment cool, quoi. Est-ce que, alors, bon, il y a ces premiers épisodes qui sont sortis en octobre-novembre 2021, qu'on a enregistré. Donc, mais c'est quand même, je pense, chouette si tu peux te représenter un petit peu. Peu pour les personnes
pour les
en fait qui te connaissent pas, pour les nouveaux voilà. Exactement, et puis les nouveaux, ils peuvent retourner écouter ces épisodes, ces premiers épisodes avec David.
D'accord, je m'appelle David Perroux, je suis actuellement je suis écrivain. J'ai écrit cinq livres, ouais. dont quatre romans. Le dernier, Le Chaman du Pacifique,
ouais.
qui vient de sortir, il est sorti le 24 janvier. Avant d'être écrivain, j'ai fait une longue carrière d'économiste, ouais. Et j'avais un institut d'études comportementales à l'échelle mondiale. Donc, on faisait des études de comportement dans les aéroports.
Ouais.
Ce qui nous intéressait, c'était le comportement des voyageurs aériens. Donc, à un moment donné, je vivais de ce métier-là. Et ma passion, par contre, ça a toujours été les sciences noétiques.
Ouais.
Donc, c'est un mot qui, au fait, résume toutes les sciences qui touchent à la conscience. Et notamment ces états augmentés ou,
ouais.
ou modifiés. Donc, de fil en aiguille, en essayant plutôt de chercher à comprendre comment était fait l'univers, qu'est-ce qui l'animait, pourquoi la vie est apparue sur Terre et quel était son but, je suis arrivé, je l'ai fait très courte,
oui,
hein,
oui.
mais je suis arrivé vraiment à m'intéresser plus particulièrement à la conscience. Et à force d'étoffer mes connaissances, j'ai commencé à avoir envie de les partager.
Ouais.
Et puis, j'ai commencé, en parallèle de mon travail de directeur d'un institut d'études comportementales, j'ai commencé à écrire.
Ouais.
J'ai d'abord écrit un essai, quelque chose d'assez sérieux, qui m'a pas plu. Donc, je l'ai jamais publié.
Ah,
je l'ai même
voilà,
jamais fini.
Ouais, ok.
Et au bout d'un moment, d'ailleurs, ça s'est passé lors d'une retraite,
ouais.
une retraite avec Eckhart Tolle,
oui.
l'auteur
ah,
du,
ouais.
du pouvoir du moment présent.
Ah, trop bien.
J'ai eu l'intuition qu'il fallait qu'en fait, c'était très bien que j'étais un messager, donc j'avais ce message sur la conscience à faire passer.
Ouais.
Mais d'une façon beaucoup plus ludique. Et j'ai décidé de reprendre mes écrits, mais sous forme romancée.
Ouais.
Et c'est là que j'ai sorti mon premier roman, Voyageant de deux vies, qui a beaucoup plu. Donc, j'ai enchaîné, j'en suis au cinquième.
Wow. Et ouais, entre deux, il y a une BD.
Il y a une BD. Ouais.
Ouais.
Il y a une BD, Les secrets de notre conscience, qui va d'ailleurs ressortir en version poche en juin.
Très bien.
Oui, alors la BD, c'est un format un peu différent, dans le sens où on traite des états modifiés de conscience de manière un peu plus légère.
Ouais.
C'est juste, c'est des dessins avec des explications des phénomènes. Comme toujours, j'enrobe ça dans une histoire assez facile à lire. Donc, c'est quand même un roman graphique.
Ouais.
Donc voilà, mais c'est vrai que il y a cette BD et puis les autres, c'est quatre romans, des romans quand même assez épais qui font tous plus de 350 pages. Donc
ouais.
Donc on embarque dans des histoires
qui se lisent mais hyper facilement. Enfin moi je suis embarquée dedans, je peux plus m'arrêter quoi. Je les lis vite en fait parce que pendant 2-3 jours je suis dedans à fond quoi. Et c'est addictif quoi. C'est comme une série. Pour moi c'est vraiment comme une série Netflix, tu vois. C'est chaque fin de chapitre tu dis attends non mais je peux pas, il faut que je continue quoi. Et puis ce que j'aime beaucoup en fait dans ta manière d'écrire, c'est que les chapitres ils sont courts.
Voilà, je fais des chapitres courts et effectivement, en fait, mon but c'est vraiment de partager ce que j'ai appris sur la conscience, parce qu'en fait la conscience humaine est fantastique, elle est
ouais.
limitée. On pourrait écrire un livre de science-fiction qu'on n'arriverait même pas à décrire toutes nos capacités qu'on a en nous, on le sait juste pas. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment de faire partager ces informations que j'ai découvertes de manière assez scientifique. Donc, ouais. Là, c'est à travers des recherches pénibles à lire. Ben ouais, ça, je l'ai fait. Et puis, j'ai pas envie de vous l'imposer, de l'imposer au lecteur. Donc, moi, je retranscris ça, mais vraiment sous forme d'histoire. Et je veux que l'histoire soit intéressante, quoi, qu'on n'ait pas envie de poser de livre. Sinon, quel est le but de le faire sous forme d'histoire?
Ouais. Et puis, combien de temps depuis combien de temps, en fait, t'étudies ou t'es passionné par tout ce qui est, on va dire, les sciences noétiques, la conscience?
Ça fait plus de 20 ans.
Ah ouais. Ouais, donc. T'as commencé fin 90, quoi, voilà, depuis 2000, exact.
Ouais. Et c'est pour ça, au fait, que ben souvent les gens qui lisent mes livres me disent, mais notamment les chroniqueurs professionnels me disent, mais c'est incroyable, j'ai rarement vu un livre aussi bien documenté.
Ouais.
J'ai dit, attention, c'est pas que je me suis super bien documenté pour le livre, c'est ma passion, c'est la recherche d'une vie.
Ouais.
Et puis j'en ai fait des livres. Donc c'est souvent l'inverse de ce que fait l'écrivain. L'écrivain se documente sur le sujet dont il fait le roman.
Ouais.
Et souvent au début, il sait pas grand chose. Tandis que moi, je fais des romans par rapport à une connaissance profonde que j'ai déjà.
Ouais, ouais. Et, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, la toute première fois, en fait, à te pencher sur ce thème, quoi?
Mais j'ai toujours, je crois que déjà enfant et même adolescent, j'arrivais pas à lever les yeux au ciel et à regarder les étoiles en me demandant mais qu'est-ce que c'est. Donc après j'ai appris que c'était des soleils et j'ai appris qu'il y en avait, que dans notre galaxie il y avait plus d'un million d'étoiles, donc un million de soleils comme le nôtre, qu'il y avait plus d'un milliard de galaxies qu'il existait dans l'univers, ouais. Enfin on le soupçonne, et que en conséquence au fait ce qu'on voit en regardant le ciel, c'est une toute petite partie du réel. Et puis j'ai toujours eu un esprit très curieux, donc je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, ouais. comment tout ça s'est né, dans quel but, donc c'est vraiment par curiosité de au fait qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'univers, pourquoi on est là, qui on est, est-ce qu'on est qu'un corps physique ou est-ce qu'on est plus que ça, c'est tout. Toutes ces questions un peu d'un côté métaphysique, mais d'un autre côté existentiel, qui m'ont amené à, qui ont été le déclencheur sur ces recherches. Et puis après, je suis quelqu'un d'assez passionné, donc dès le moment où je me suis mis à chercher, j'ai trouvé des réponses qui m'ont vraiment intéressé, ouais. Et qui m'ont amené à aller plus loin et de fil en aiguille. J'ai fait plus de 25 ans de recherche, ce qui fait que je suis maintenant quand même, malgré que ce soit pas mon métier, que je suis, ouais. Pas un chercheur qui publie, etc., ça fait de moi un spécialiste de la conscience,
ouais.
Mais vraiment par passion et par intérêt, et aussi parce que je me demandais finalement à quoi sert notre existence. Est-ce qu'on est juste là pour avoir un free ride, ouais. Et puis s'amuser, ou est-ce qu'il y a un but quand on a des difficultés dans la vie? Est-ce que c'est juste pour nous emmerder, ou on a le droit de dire des gros mots dans ton podcast?
Des gros mots, ouais. D'ailleurs je vais même pas couper le bout là, tu vois. On discutait tout à l'heure d'authenticité,
voilà,
donc tu peux jurer tout ce que tu veux. D'ailleurs je me suis fait reprendre sur le fait que je dis le mot qui commence par PU, tu vois,
ouais, d'accord, souvent. Très souvent,
donc, okay, voilà.
Donc je suis en dessous encore, ça. Donc, effectivement, quand on a des difficultés dans notre vie, est-ce que c'est juste pas de bol, est-ce que c'est juste pour nous ennuyer, ou est-ce que vraiment il y a des messages à comprendre, il y a des on veut nous guider vers quelque chose.
Ouais.
Donc pour moi ça m'est apparu très vite compliqué de vivre sa vie si on comprend pas un peu plus que ce qu'on veut bien nous apprendre à l'école ou nous montrer, ouais. Dans les livres de sciences, et du coup je me suis vite rendu compte que l'être humain était beaucoup beaucoup plus complexe que ce qu'il y paraît, et que de comprendre cette complexité, ça nous aide beaucoup dans notre vie, dans les décisions qu'on doit prendre, dans la façon dont on doit la mener, et que voilà, maintenant je pourrais plus vivre sans avoir cette clarté sur les buts de l'existence.
Ouais. Et alors, tu dirais qu'on est là pourquoi ?
Alors, Il dure 3 heures ton podcast?
Ouais, on peut faire durer 3 heures si tu veux. Bon, on fera plusieurs épisodes.
Non, mais pour résumer, je pense qu'on est là pour apprendre.
Ouais.
Et on est là pour apprendre à penser. Je me suis rendu compte que, au fait, dans des autres dimensions de l'univers, parce que c'est aussi une chose, quand on traite de la conscience, on est obligé de s'intéresser, de constater que l'univers n'a pas qu'une dimension matérielle comme ce qu'on croit, mais a d'autres dimensions, et que notre conscience, bien que rattachée à un corps matériel le temps d'une vie, est aussi faite pour naviguer dans ces autres dimensions. Seulement, le problème, c'est que, et je pense qu'on s'en rend tous compte, c'est qu'on n'arrête pas de penser. On a 20 000 pensées par jour.
Ouais.
Et que dans la matière, donc sur Terre, dans notre corps physique, ça va encore, parce que là, ben voilà, la pensée, on peut la réviser, on peut l'ajuster, on peut la calmer, etc. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que dans les dimensions plus élevées et plus subtiles de l'univers, ce que tu penses arrive immédiatement.
Ouais.
Donc, si tu arrives là-bas avec 20 000 pensées par jour, dont les trois quarts qui sont tout et n'importe quoi, on va mettre un sacré Bronx. Donc, ouais. je pense que on est vraiment là pour apprendre à penser juste, la pensée juste, la parole juste. C'est quelque chose qu'on peut. On est vraiment dans le terrain d'entraînement. Ici, on peut s'entraîner dans les dimensions plus élevé où on aspire à aller, il faut savoir penser, sinon on est mal barré.
Ok, moi je vais pas poser plus de questions, mais du coup tu là-dessus, parce que sinon on va dévier complètement. Oui,
c'est...
mais
c'est dangereux.
Ouais c'est très dangereux, parce que du coup je me fais embarquer et j'ai 10 000 questions encore à me poser, mais je pense que on pourra faire d'autres choses ensemble.
Voilà.
Du coup, toi, tu traites en fait de ces autres dimensions, de ces autres univers dans tes romans.
Mmh.
Et donc, dans Le Chaman du Pacifique, tu traites aussi d'un autre univers qui est le côté artificiel, en fait. Pourquoi tu as choisi ce côté intelligence artificielle ?
Ben, c'est vrai que dans mon dernier roman, J'ai choisi, et ça a surpris beaucoup de monde, de mettre en parallèle, au fait, tout ce que j'ai appris sur la conscience avec l'intelligence artificielle. Mm-hmm. C'est né d'une conversation que j'ai eue avec des spécialistes de l'intelligence artificielle,
ouais,
qui m'affirmaient, au fait, que l'intelligence artificielle avait beaucoup plus de potentialité que l'intelligence humaine. Donc, à un moment donné, l'humain ne serait plus l'intelligence numéro un sur Terre, pour autant qu'il le soit, hein,
ouais.
Parce que je pense que voilà, il y a peut-être des formes d'intelligence qu'on n'a pas compris et qui sont très puissantes dans la nature, mais disons, raisonnant comme raisonnent ceux qui programment ces intelligences artificielles, eux partent du principe que dans un horizon assez court, hein, 5-10 ans, la machine sera plus intelligente que l'humain. Et moi, ça m'a un peu intrigué, parce que je me suis dit, mais de quelle intelligence parle-t-on?
Ouais.
Si c'est l'intelligence de mémoire, on est déjà dépassé, hein, parce que les ordinateurs ont une capacité de mémoire bien plus élevée que la nôtre. En tout cas, la mémoire à court terme, je veux dire, il suffit de googler tout et n'importe quoi, on le trouve tout de suite. Après, si on parle de l'intelligence pratique,
ouais,
ça, je veux bien imaginer. Mais ça m'a amené toute une réflexion et des discussions passionnantes avec ces gens, parce que je me suis dit, mais à un moment donné, l'intelligence, c'est une chose, mais les humains sont faits d'autres choses que de l'intelligence. Et moi, mon domaine de prédilection, c'est la conscience.
Mm-hmm.
Donc vous qui programmez ces machines, vous savez ce que c'est que la conscience?
Ouais.
Donc ça, c'est la question. En principe, ça amène un grand silence.
Oui, parce que en plus, après un moment donné, hein, tu parles aussi de, tu vois, hémisphère droite, hémisphère voilà, gauche. Donc, ouais. Du coup, enfin, il y a vraiment tout ces, pour programmer, t'es obligé d'avoir cette logique quand même un peu binaire, quoi.
Ouais, ouais.
Et donc, c'est, pour moi, la conscience, enfin, c'est autre chose. Enfin, c'est, après, je sais jamais si c'est cerveau droite ou cerveau gauche, mais bref, mais c'est vraiment cette capacité, en fait, à sortir de cette dimension physique pour sentir autre chose, quoi, ou percevoir autre chose. Que ça a rien de logique et de tangible, quoi.
Bon, alors après, si tu continues la discussion en scientifique, parce que c'est les scientifiques qui créent des intelligences artificielles, eux veulent bien concevoir qu'il existe une conscience. En règle générale, ils pensent que simplement le cerveau humain, donc la matière, est assez complexe, avec toutes ces connexions neuronales, etc., pour autogénérer une conscience.
Okay.
Donc eux, ils disent, mais finalement, nos machines, au bout d'un moment, elles vont réussir à répliquer le cerveau humain, à le dépasser, donc elles vont être plus conscientes que l'humain. Alors moi, là, à quoi je réponds, il me semble qu'il y a, en tout cas en science, on parle de deux problèmes de la conscience. Le petit problème de la conscience, qui est justement... la conscience autogénérée par le cerveau, est le grand problème de la conscience, qui serait au fait une autre conscience, beaucoup plus large, beaucoup plus universelle, dont le cerveau humain ne serait qu'un récepteur. Toutes mes études en sciences noéctiques m'ont amené à penser qu'on est les deux. C'est-à-dire qu'on a une conscience, bien sûr qu'on a un cerveau qui est matériel, qui génère une sorte de conscience... Je l'appelle la petite conscience ou la conscience égotique. Ouais. Donc elle génère un peu notre ego, notre mental. Mais qu'on est bien plus que ça. On est aussi capable de se connecter au tout. Dans mon précédent roman, par exemple, je parle beaucoup du champ quantique, des mémoires akashiques. Ouais. C'est un champ qui contient toute c'est le web de l'univers, si tu veux. C'est un champ qui contient toute l'information sur tout ce qui existe dans l'univers. Et nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas super conscient dans notre quotidien, mais on est au fait, on est capable et on reçoit de l'information de ce champ universel. Donc ma question à ces programmeurs d'intelligence artificielle, c'est comment vous allez faire, vous, pour vous connecter à ce champ d'information universelle qui est quelque chose, qui est une propriété, à mon avis, du vivant. Ouais. Alors là, on a eu des discussions très intéressantes, parce que certains m'ont dit... Bullshit, ça n'existe pas.
Ouais, ouais.
Donc on s'en occupe même pas. Puis d'autres m'ont dit, écoutez, de toute façon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer des machines tellement intelligentes que si la conscience est un champ universel exogène au cerveau, elle va s'en rendre compte, elle va trouver un moyen de s'y connecter. Et ça, j'ai trouvé vraiment très intéressant comme propos. Je me suis dit, donc vous allez créer une machine qui va découvrir ce qu'est la conscience. Et en plus, qui va s'y connecter. Puis ça m'a amené plusieurs pistes de réflexion. Je me suis dit, mais est-ce que la conscience, au fait, va accepter de se connecter à une machine? Ou est-ce que c'est un truc en libre service, comme l'air, comme l'eau, ou alors est-ce que c'est une propriété du vivant? Et je me suis dit, mais c'est passionnant, au fait, comme sujet. Et du coup, moi, en tant que spécialiste de la conscience, Si j'invente une histoire qui traite de ça, je vais pouvoir faire un roman du tonnerre.
Oh bah, et je te confirme qu'il est du tonnerre, quoi. Waouh. Ouais, c'est non, vraiment, il faut que vous les alliez, vous procurez le bouquin de David, le livre de David, par contre, parce que c'est vraiment, ça montre vraiment toutes ses potentialités. Et ce que j'aime, en fait, c'est que, c'est une intelligence artificielle, elle apprend. Mais elle est aussi guidée par quelqu'un qui lui amène des belles valeurs, quoi. Et ça, c'est la relation, en fait, qu'elle développe ensemble. Donc, la programmeuse qui est une femme. Ce qui est quand même, c'était smart de mettre une femme. Mm-hmm. Et elle développe une relation toutes les deux qui est vraiment, j'étais presque envieuse, tu vois. Je me disais, mais moi, j'aimerais, en fait, pouvoir comme ça raconter mes journées, voilà, tu sais, presque à ma meilleure amie, en fait, et puis que elle puisse, tu vois, documenter de l'univers de connaissances qu'elle a pour venir me donner des conseils. Ce serait bien plus riche que, en fait, une amie qui connaît pas toutes mes expériences, quoi, tu vois, et en plus elle est bienveillante, et elle fait preuve d'empathie, elle a presque de la compassion, et donc elle lui enseigne tout ça, et je trouve que waouh, je sais, J'aimerais bien aussi, quoi. Alors, désolée, hein, les copines, si vous écoutez, hein, mais c'est, franchement, c'était vraiment bien, quoi.
Oui, ben, je veux dire, bon, ben, l'histoire, on reviendra sur le titre parce qu'en fait, il y a toute une autre histoire dans l'histoire, hein, mais cette partie de l'histoire avec Julie, donc l'héroïne et son intelligence artificielle, pardon, elle crée une vraie relation et c'est vraiment ce que Julie veut. Elle veut pas créer une intelligence froide, sans conscience, sans état d'âme. Donc elle s'applique. Je vais pas dévoiler comment parce que c'est une des intrigues du roman, mais elle trouve une idée qui est très smart et très féminine. Donc c'est pour ça que c'est une femme. Parce que je pense pas qu'un homme aurait trouvé l'idée qu'elle a trouvée.
Toi t'aurais peut-être trouvé, tu vois, si t'étais programmeur.
Voilà, tout à fait. Mais je dirais c'est une énergie plus féminine qui a permis d'avoir cette relation presque. Ouais, presque on dirait presque deux sœurs quand elles communiquent. Oui. Pourtant, à certains moments, ben, on voit les limitations on voit que c'est une machine, hein, quand tout d'un coup elle lui dit, ah, mais j'ai une intuition, la machine, elle bug, elle lui dit, moi je te suis pas là, c'est pas ça qu'il faut faire. Si, parce que j'ai l'intuition qu'il faut faire ça, mais c'est quoi une intuition?
Ouais, elle comprend pas, elle a beau essayer de lui expliquer, elle trouve pas, en fait, comment lui expliquer, mais enfin, elle trouve pas, parce que c'est difficile pour nous aussi, enfin, d'expliquer ce que c'est une intuition. On n'arrive pas à mettre des mots dessus.
Ben, dans mes recherches sur les intelligences artificielles, je me suis rendu compte qu'au fait, c'est facile de programmer des choses complexes et c'est très très difficile de programmer des choses simples, une intuition, une émotion, des choses que nous on vit tous les jours. C'est presque mission impossible d'expliquer, de programmer ça en langage informatique. Alors que de dire à une intelligence artificielle, lis-moi tous les classiques de la littérature française et fais-moi un roman qui ressemble, c'est possible.
Et toi, c'est quoi en fait qui t'anime en fait dans cette transmission au travers de tes romans?
Bon, mes romans ils ont un but unique, c'est de contribuer à l'élévation des consciences sur Terre. Donc c'est résumé en une phrase. Ouais. Après, pourquoi j'ai voulu traiter ce sujet? Parce que je pense que le sujet de la digitalisation qui va arriver à son apogée avec les intelligences artificielles. Et va dans le sens inverse, c'est-à-dire que ça va vers une diminution de la conscience collective. Et je pense que si à un moment donné on veut s'en sortir, parce qu'actuellement il faut pas se leurrer, on prend pas le bon train, hein, on prend un train qui fonce sans réfléchir dans une logique matérialiste qui, si on continue comme ça, va épuiser les ressources de la planète. Une fois que les ressources de la planète seront épuisées, c'est le vivant qui aura plus sa place, ou en tout cas la forme de vivant, dont l'humain. Je veux dire, si on épuise les ressources comme l'eau, l'air, la Terre, je pense qu'elle va aller très bien. Je traite ça dans mon roman précédent, où je montre qu'une civilisation peut s'éteindre par excès égotique, par excès technologique, par manque de réflexion et de conscience, et puis repartir. La Terre, une fois qu'il n'y aura plus l'humain dessus, elle va se régénérer, même s'il lui faut 100 millions d'années, c'est rien sur son histoire.
Bah, ça lui est déjà arrivé.
Ça lui est déjà arrivé, je pense. En tout cas, c'est l'hypothèse que je fais dans le roman précédent, Les âmes du temps perdu. Mais du coup, moi, ma contribution, c'est de dire, essayons d'éviter cela. Et je pense que l'élévation des consciences est encore plus importante à l'heure de la digitalisation, parce que ça va être le contre-pouvoir. Et on le voit bien dans mon dernier roman. C'est pour ça que l'autre personnage principal que j'ai choisi, c'est un chaman qui sort d'une tribu cachée au fin fond des îles du Pacifique Sud, qui ont développé une relation avec la conscience, avec les esprits, qui est complètement fluide, qui est complètement transparente. Et puis d'un tout coup, lui, il sent vibre le cœur de la Terre. Il sent qu'il se passe une chose pas juste pour la Terre. Il se dit, mais il sait pas pourquoi, mais il a attiré vers ça, et son but, au fait, ça va être justement, par l'élévation des consciences, d'éviter une catastrophe au niveau de ces intelligences artificielles. Et je pense que c'est un peu caricaturé dans mon livre, vu que c'est ce chaman qui porte la conscience en lui. Ouais. En réalité, on la porte tous. Mais
oui, mais il n'est pas tout seul, tu vois, dans ton livre à la portée. Il y en a plein d'autres, dont des personnages de romans précédents.
Ouais,
et même certains qui sont ailleurs. Je ne veux pas spoiler. Et nous aussi, on a ça en nous, quoi. Donc, pourquoi on n'est pas plus, quoi? Enfin, tu vois, pourquoi ça change pas plus vite? Enfin, moi, j'ai beaucoup de frustration par rapport à ça. Même que je consomme encore, hein, tu vois. Enfin, voilà. Donc, je trouve que c'est difficile, en fait, de vouloir vraiment être vraiment en conscience pure et puis dans nos actes et dans le respect de tout le vivant. C'est difficile aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait des décisions, en fait, tu vois. Gouvernemental qui nous aide encore plus, quoi.
Oui, bien sûr. Et de toute façon, les démocraties sont à changer.
Ouais.
Tout changement de paradigme arrive par le peuple. Hein. L'idée, et quand tu me demandais pourquoi j'écris mes romans, c'est pour la même raison que tu fais ces podcasts ou que tu fais ton métier, c'est pour apporter ma pierre à l'édifice de l'élévation des consciences, parce que je me dis qu'à un moment donné, quand les consciences seront au point où on supportera plus la façon dont on est géré, par exemple, ou de la façon dont l'économie a mainmise sur toutes les décisions, etc., ben les choses vont changer. C'est pas ça se passe toujours comme ça. Donc moi, ma solution, elle passe par là. Je suis pas ni super optimiste ni super pessimiste. Je sais qu'il y a une solution. La solution, c'est qu'une majorité d'entre nous ouvre les yeux sur leurs valeurs, qu'on est bien plus qu'une entité matérielle faite pour consommer, que le bonheur se trouve ailleurs que dans l'achat de biens matériels, et que la façon d'être gouvernée doit être beaucoup plus participative que ce qu'elle est actuellement, que la finance et l'économie ne doivent pas être au milieu du projet sociétal, mais doit être un outil. Et toutes ces choses-là, ben, il faut qu'on y vienne progressivement. Si par mes livres, alors j'ai la chance qu'ils soient lus par plusieurs milliers de personnes. Donc si parmi ces milliers de personnes, il y en a quelques centaines qui changent quelque chose à leur façon de penser, ben je me dis voilà, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Il y en a d'autres, il y en a qui font des films, il y a des gens comme on parlait des Cartelets qui lui fait des retraites et qui touche des centaines de milliers de personnes. Donc lui c'est un super élévateur des consciences. De toute façon, c'est un travail gigantesque qu'on doit tous faire, que l'humanité doit entreprendre, et on sera jamais assez à y participer. Donc voilà le but de tout ça.
Ouais, c'est beau, merci. Et l'économiste en toi, tu vois, et puis je pense que t'as encore des amis qui sont actifs, enfin, tu vois, dans ce milieu d'économie, parce que toi tu viens de là avant de te mettre à écrire malgré ta passion. Et ton métier actuel, l'économiste en toi et tes amis, tout ça, comment ça se passe, en fait, comment ils voient les choses, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils sentent bien qu'on est arrivé, tu vois, à un point, moi, j'ai l'impression qu'on est en rupture, quoi, que ça peut plus fonctionner, on essaye quand même de faire durer un truc qui marche plus.
Alors, ça dépend avec qui je parle, j'aurais tendance à dire que même au cœur de l'économie, les consciences changent, mais il y a toujours le danger de s'entourer de gens qui pensent la même chose que nous. Ouais. Donc peut-être que ma vision est biaisée, mais c'est vrai que j'ai des discussions passionnantes avec mon banquier qui lit mes livres et qui me dit franchement ce que tu dis, ce que tu proposes, c'est génial, on devrait tous aller vers cela. Donc je pense qu'à un moment donné les choses vont vont devoir changer. Elles peuvent changer de deux façons. On a vu avec le Covid que tout d'un coup, les choses changent dans l'urgence.
Ouais.
Et ça, c'est jamais bon, hein.
Non.
T'as le foutoir qui s'est pas. Donc, ça, c'est jamais bon. Mais si on persiste dans la logique matérialiste et financière actuelle, on va arriver à un état d'urgence. Mmh. On va arriver à des catastrophes naturelles, à des pénuries qui vont faire que tout d'un coup, des gouvernements qui sont peu conscients vont devoir prendre des décisions dans l'urgence. Il va se passer ce qui s'est passé pour le Covid fois 1000, c'est pas souhaitable.
Ouais.
L'autre façon de faire, bah, c'est justement de changer petit à petit, pas dans l'urgence, de prendre conscience. Et pour moi, il est pas question d'aller vers un système socialiste. Il est juste question de finalement aller vers un système où c'est le bien commun qui est au centre.
Ouais.
Et non pas, c'est-à-dire que la finalité, c'est le bien commun, et je le traite beaucoup dans mon précédent roman, oui. En disant, finalement, le bien commun, comment on le mesure? Par le bonheur national brut.
Oui.
Et que simplement en changeant cette mesure-là, en se disant, ben, le projet d'une société, c'est de faire en sorte que la majorité des acteurs de cette société soit le plus heureux possible.
Ouais.
Ça implique de savoir ce que c'est que le bonheur. Donc, il faut faire des recherches à ce niveau-là. Quand on fait des recherches à ce niveau-là, on se rend compte qu'il est, il est corrélé à la possession de biens matériels jusqu'à un certain niveau. Et après, il est décorrélé, mais puissamment, bah, complètement. Il y a un niveau de bien qui empêche le bonheur.
Il faut le minimum vital en fait pour bien vivre, voilà, avoir un peu de loisirs et voilà, confortable. Puis après, en fait, moi j'avais expérimenté ça chez Orange, tu vois, quand j'ai une petite trentaine d'années, super salaire, voilà, mais une insatisfaction complète dans mon job, et là je me suis dit, mais en fait, tu pourrais me payer encore plus que je resterai pas parce que je suis pas heureuse, quoi. Et là, je me suis dit, ben en fait, là, il y a vraiment une limite en fait à ce que le matériel. Et puis après, tu rentres, t'es pas heureux, donc tu rentres dans une espèce de logique de consommation. Donc tu dépenses ton argent pour consommer, pour te remplir. Et ça, ça dure des fractions de secondes, quoi.
Mais si tu veux, c'est une des grandes forces du marketing et de la publicité d'après-guerre, c'est d'avoir réussi à vendre le fait que la possession de biens matériels rendait heureux. Et je pense qu'on est en train de sortir de cette illusion-là, gentiment, parce qu'on se rend bien compte que finalement, s'acheter une nouvelle voiture, quand l'ancienne va encore très bien, ça nous rend heureux, quoi. Oui, on est fiers, on est heureux, mais quoi, une semaine, deux semaines?
Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que tu griffes les jantes.
Voilà, exactement. Alors qu'avoir une hygiène de vie où on va se promener dans la nature, où on est connecté, où on prend du temps pour soi, où on prend du temps pour ses enfants, sa famille, où on fait un peu de sport, où on s'accorde entre 10 et 30 minutes par jour, où on essaie d'arrêter nos pensées, enfin, ça nous apporte un autre type de bonheur qui, c'est pas une flamme comme une flamme d'allumette qui s'allume et qui s'éteint, c'est un feu follet qui est là en permanence, c'est une joie qui est là en permanence. Et quand on commence à goûter à ça, on se dit, ah mais finalement, voilà, c'est la réponse. Et du coup, oui, je dois être à l'aise financièrement, mais pas au détriment d'autres piliers du bonheur que sont le temps libre, que sont la pleine conscience, que sont sa famille,
l'amour en fait, que
l'amour,
ce que tu peux vivre
l'amour
avec les gens, quoi.
Et l'amour, le don de soi, quand on fait de nouveau, on pourrait pas passer des heures à parler de ça, mais quand on regarde les études qui ont été faites sur le bonheur et qu'on voit la liste de ce qui apporte le bonheur, c'est principalement des choses immatérielles.
Oui.
C'est justement être aimé, donner, faire du bien autour de soi. c'est incomparablement plus élevé que de, que des que qu'une que l'achat d'une nouvelle voiture,
oui,
que l'achat
oui, oui.
D'un collier, d'un diamant ou d'une montre.
Et puis quand tu vois les gens qui tu sais qui sont interrogés en fin de vie, en fait, c'est ce qu'ils ont comme regret, en fait, c'est du temps qu'ils ont pas passé avec les gens qu'ils aimaient,
bien
quoi.
Sûr, ouais.
Donc
ouais,
ouais. Là tu te dis merde, c'est
mais tu vois ça il y a une grosse puissance marketing qui est née dans les années 60-70,
ouais.
Et qui n'a cessé de se sophistiquer. Mais je pense qu'elle a atteint ses limites. Et c'est, quand je parle d'élévation des consciences, je parle de ça. Je parle de se dire bon ben de regarder tout ça avec un peu de recul, puis se dire mais finalement oui. On nous bassine avec ces beaux corps, ces belles images, ces rêves d'une vie parfaite, mais en fait tout ce qu'on veut derrière, c'est nous vendre quelque chose dont on n'a pas besoin. Donc prenons un peu de recul et se disons mais qu'est-ce qu'on a réellement besoin? Alors oui, on a besoin de choses. Moi, je suis un skieur émérite. Ça me rend heureux de faire des descentes à ski. J'ai besoin de mon matériel, donc je vais dépenser de l'argent pour ça. Mais je vais pas non plus exagérer. Une fois que j'ai ce qu'il me faut.
Ouais.
Mon propos, c'est pas de sortir complètement du système économique. Je vais pas commencer à aller
pas vivre en autarcie,
chercher une planche
quoi.
Et faire mes skis moi-même. C'est pas ça, mais c'est de bien se connaître. Et de savoir quels sont nos besoins réels, et pas d'aller, il y a pas besoin d'aller au-delà.
Ouais. On a beaucoup parlé de ça dans l'épisode précédent. En fait, on a parlé du bonheur national.
Exactement,
brut, du bonheur intérieur brut. Et dans celui-ci de roman, tu parles t'amènes un nouveau système démocratique. Il me semble pas que t'as parlé de ça dans les précédents. Alors je l'ai raté. Mm-hmm. Est-ce que tu peux dire deux mots là ou c'est spoilé?
Non, c'est pas spoilé. C'est une idée que j'ai découverte dans le film Demain.
Ouais.
Qui est un très beau film. Et il y avait un petit reportage dans ce film, mais c'est celui qui m'a le plus touché. Il y avait plein de beaux sujets. Ce film prône ce que je prône dans mes livres. Un sujet m'a particulièrement interpellé. C'était une ville en Inde où tout allait très mal. C'est-à-dire que la ville, les égouts étaient à ciel ouvert,
ouais.
les histoires de caste faisaient que personne ne collaborait avec personne. Enfin, elle était connue comme une ville ingérable, à tel point que personne ne s'était inscrit pour aller à l'exécutif de cette ville. Et du coup, je sais plus exactement si c'était dans les statuts de la ville ou si c'est quelqu'un qui a décidé, mais ils se sont dit, bon, bah, vu que personne ne veut la gérer, tirons au sort parmi la population et on va obliger, donc c'était parti forcément d'une bonne intention.
Comme quand t'es juré,
voilà,
quoi.
Voilà, exactement.
Choix,
c'est comme un juré aux États-Unis.
Ouais.
On va obliger une trentaine de personnes à prendre en charge le destin de cette ville-là parce que, voilà, c'est
y a pas
tellement,
le choix, quoi.
Il n'y a pas le choix. On a quand même besoin de gens qui gèrent la ville et comme personne ne veut le faire vu que c'est tellement le bordel, voilà. 10 ans après, cette ville était la seule ville d'Inde où ils avaient aboli toutes les castes. Alors, officiellement, il n'y a pas de caste en Inde, mais dans la pratique, mais là, dans la pratique, il n'y avait pas de caste. Le problème des égouts et tout a été résolu en 2-3 ans, et c'est devenu une des villes les mieux gérées d'Inde. Donc, ça démontre finalement que si on met ensemble des gens et on leur donne juste la mission de gérer la communauté, on va avoir un mélange de force et de compétences qui est bien plus intéressant que si on a un modèle où on récompense les plus gros égos. Parce que notre modèle démocratique actuel, c'est ça, hein, il faut aimer se mettre en avant, il faut aimer se battre contre les autres, et puis il faut aimer vraiment faire stratégie, compromis, accepter l'argent, même si on n'aimerait pas accepter ce type d'argent, etc., pour avoir la force de frappe nécessaire pour faire une campagne de votation qu'on a une chance de gagner. Et ceux qui la gagnent, c'est... Donc finalement, dans nos démocraties actuelles, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un type de personne, c'est le type de personne souvent qui, voilà, qui aime être devant la scène, qui est d'accord de faire des compromis ou un pacte avec le diable.
Je schématise,
mais
c'est si, quand même un peu
voilà,
ça.
Je veux dire,
hein.
si t'es socialiste et puis que tu crois pas trop au lobby pharmaceutique, mais que d'un autre côté, t'es obligé de financer ta campagne, sinon t'as aucune visibilité et on votera pas pour toi, ben, il y a quand même des compromis à faire qui sont pas faciles. Dans un système où on vote, où on choisit au hasard, il y a plus tout ça. Donc, ouais. Effectivement, dans mon dernier roman, je propose une solution au problème démocratique actuel, qui est d'élire le Parlement de manière aléatoire, donc au hasard. Et puis ensuite, les élus au hasard. Alors là, j'ai poussé l'idée. Ça, c'est une idée plus personnelle. Vont élire un conseil des sages. Donc selon certains critères, ils vont élire des gens qui n'auraient jamais voulu être dans le devant de la scène.
Ouais.
Hein, on a parlé plusieurs fois d'Eckhart Tolle ou de gens comme ça qui font des retraites où ils permettent aux gens d'élever leur conscience, etc. Ces gens travaillent à l'arrière-scène. Donc l'idée, c'est de dire à ce Parlement, voilà, vous allez chercher ces gens et faites un conseil des sages.
Mmh.
Ce conseil des sage, au fait, il va guider l'exécutif. Ensuite, donc, le Parlement élu au hasard devra aussi trouver l'exécutif parce qu'eux n'auront pas les compétences.
Ouais.
Donc là, oui, là, on va choisir des gens dont le métier est la gestion, comme une société va choisir son CEO. Mais ces gens-là auront comme conseil d'administration ce fameux conseil des sages.
Ouais.
Tout, que ce soit l'exécutif ou le conseil des sages, tous ces gens-là devront œuvrer pour augmenter le bonheur national brut. Donc voilà, je me suis amusé
J'adore. C'est, moi, je lisais ça et je me disais, waouh, on y est, quoi. C'est possible. Il y a un possible, quoi. Il y a une solution, tu vois. Et ça m'a beaucoup fait penser. Là, j'ai interviewé, je te passerai le lien, Vola Potinet, qui est coach des cœurs et de la libération dans une entreprise qui s'appelle Haute-Savoie Habitat.
D'accord.
Ou Habitat Haute-Savoie. Mmh. Et eux, à l'intérieur de l'entreprise, si tu veux, ils ont libéré l'entreprise dans son organisation, puis ils se sont rendus compte que ça suffisait pas. Donc, ils ont voulu aussi libérer le cœur de l'entreprise, donc des employés aussi, pour qu'ils puissent être plus eux-mêmes au travail, pas seulement dans l'organisation qui est plus moins hiérarchique, quoi, moins verticale. Et en fait, ils ont un conseil de direction bien pour l'exécutif, et puis ils ont un conseil qui dit, je sais plus comment il l'appelle, je crois quantique ou voilà, qui a vraiment cette mission plutôt d'aller, tu vois, sur la morale, sur l'éthique, sur la conscience, sur et ils pilotent ensemble, quoi. Et
Putain,
il y a des entreprises qui fonctionnent autrement.
Qui fonctionnent autrement,
ouais.
Mais je pense franchement, c'est la clé. C'est pour ça que j'avais imaginé ce conseil des sages. Je me suis dit, voilà, d'un côté, oui, il nous faut un exécutif qui gère les choses.
Ouais.
Et là, franchement, ben, il faut des gens de métier. Donc, il faut des gens qui connaissent la politique, qui connaissent la gestion de gros projets, les relations avec la population, l'économie, etc.
Ouais,
donc,
international, voilà, enfin,
il faut des gens. Mais ces gens, au lieu de faire des campagnes électorales et de passer tout leur temps à se mettre en avant, ben, on va les choisir d'après leur CV.
Ouais.
Et puis, le contre-pouvoir à ça, ben, c'est un conseil des sages qui eux vont plutôt œuvrer sur justement l'élévation des consciences, et les deux vont devoir trouver des compromis pour diriger leur pays.
Génial. J'espère qu'on sera encore vivants quand ça arrivera. Oh, c'est trop bien, c'est super. Je voulais encore parler avec toi parce que il y a dans ton roman Le Chaman Pacifique, donc il y a ce chaman et qui fait des sorties de corps. C'est pas la première fois que tu parles des sorties de corps, mais ce que j'avais envie, en fait, de... Toi, t'as expérimenté les sorties de corps? T'as déjà fait ça? Ou c'est juste que t'as ressenti, lu, documenté? Parce que c'est tellement bien décrit qu'on dirait que tu l'as expérimenté toi, quoi.
Ouais, alors... Mais c'est vrai que je vais répondre à ta question, juste une petite précision. Ben, c'est vrai que ce chaman fait des sorties de corps. Au début, il les fait que pour naviguer.
Oui.
Et ça, c'est au fait, j'ai retrouvé des traces en me documentant. il y a effectivement tout un peuple du Pacifique qui naviguait en sortie hors du corps. Donc à l'époque où les GPS n'existaient pas, les instruments de navigation n'existaient pas, ils étaient considérés comme les meilleurs navigateurs qu'on puisse trouver au monde. Ils avaient cette capacité de justement sortir de leur corps pour reconnaître un ou deux jours à l'avance la navigation qu'ils allaient faire. Donc est-ce que moi j'ai fait ça de cette manière-là? Non. J'ai jamais réussi à sortir ma conscience du corps d'une manière claire et nette comme le fait Daya, donc mon chaman, le chaman du Pacifique, le héros du film, où lui il le maîtrise, il est sur sa pirogue, il dit maintenant je dois aller voir ce qui se passe. Il s'élève, il projette sa conscience là où il doit aller, et puis il voit ce qui se passe, il sait ce qu'il doit faire, comment il doit adapter sa navigation. Ça, non.
Ouais.
Pour ce livre, je me suis beaucoup renseigné, j'ai notamment fait des cérémonies chamaniques.
Ouais.
Ça m'a amené dans des états modifiés de conscience.
Ouais.
Mais qui sont pas aussi clairs que ça.
Ouais.
Des visions, des intuitions, j'ai fait beaucoup de respiration allotropique, quelque chose qui me convient très bien. Où là aussi, j'ai eu de temps en temps l'impression d'avoir la sensation d'être un animal ou la sensation de me retrouver ailleurs, dans un autre monde, etc. Mm-hmm. Mais jamais avec la clarté que certains expérienceurs réguliers de sortir du corps ont.
Tu penses que qu'est-ce qu'il faut en fait pour pouvoir faire ça de manière plus régulière? Est-ce que en fait on nous permet pas, tu vois, il y a une conscience éthique en fait, ou quelqu'un en fait qui nous guide et puis qui nous permet ou nous permet pas à un moment donné de le faire parce que on n'est pas prêt ou pour pas en abuser? Ou
je pense qu'il nous permet pas de le faire, c'est les limitations de notre mental.
Ouais, c'est ça. Ouais, qu'on s'autorise pas.
On s'autorise pas. Ouais. Après, je pense que c'est une chose aussi difficile à apprendre que de jouer d'un instrument ou de maîtriser un sport. Donc c'est pas quelque chose qu'on se dit, oh, ben je vais juste faire un stage d'une semaine, c'est ce que j'ai fait moi, en me disant tiens à la fin du stage, ah c'est bizarre, j'y arrive pas. Je pense que c'est vraiment si on veut y arriver, c'est le projet d'une vie. Ça doit être une chose à laquelle
on se dédie quoi.
Beaucoup de temps.
Les
gens avec qui j'ai beaucoup causé, qui font énormément de sorties du corps, c'est quelque chose qu'ils avaient de façon naturelle, mais qu'ils ont appris à maîtriser, à cultiver.
Mais ça part d'une
capacité naturelle.
Ouais.
Après, ils disent tous que c'est possible, et certains font même des cours et des stages où ils apprennent aux gens.
Ouais.
Mais encore une fois, c'est une chose qui ne se fait pas en un claquement de doigts.
Ouais,
il faut y croire parce que ce serait un peu comme te dire, je vais apprendre à jouer du violon, mais je sais même pas si un violon existe. Donc, va trouver la motivation d'apprendre à jouer au violon si t'es même pas sûr que c'est une chose possible.
Donc, c'est la même chose que quand je donne des cours de yoga et quand tu vois, selon les postures, mais des choses très très simples, t'as la personne qui te dit c'est pas possible. Ben, en fait, si tu penses que c'est pas possible, jamais tu pourras le faire.
Voilà, c'est ça. Ouais, ouais.
C'est ça. Donc non, je pense que je peux pas le faire, donc je peux pas le faire. C'est tout.
On est déjà dans une société dont la croyance majoritaire est que on n'est que notre corps physique.
Ouais.
Donc dès le moment, on peut même pas imaginer qu'on a une conscience qui peut se détacher du corps physique. Bonjour pour expérimenter une sortie hors du corps. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même à peu près 3 personnes sur 10 qui en font une fois dans leur vie.
Ah ouais.
Mais c'est plus, c'est involontaire. C'est,
ouais.
Ça peut être une mauvaise. On dit qu'on fait des sorties hors du corps toutes les nuits. C'est un des processus de l'état de rêve.
Ouais.
Donc tout d'un coup, si il y a une mauvaise synchronisation ou si on peut faire une sieste sur le canapé et puis se réveiller avant d'être complètement, on risque d'avoir une sortie hors du corps typique involontaire où on se voit de haut, on se demande ce qu'on fait là, puis boum, on réintègre son corps. Donc, il y a des gens qui vivent ça, puis qui, là, ça va leur, tout d'un coup, leur ouvrir l'esprit en se disant, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est vraiment pas normal. Comment j'ai pu me voir au-dessus, du dessus, comme ça? Donc, c'est pas parce qu'on n'y croit pas qu'on le fait pas, vu que ces gens-là l'ont fait de manière involontaire. Mais si on veut réellement s'appliquer à maîtriser une sortie hors du corps, faut s'entraîner et surtout faut y croire. Faut croire que c'est possible. Donc, faut être persuadé déjà que la conscience est détachable du corps physique.
Ouais. Bon, pour moi, c'est évident. Mais bon. Voilà,
mais toi, par exemple, dans mon livre, pourquoi j'ai choisi un chaman de cette tribu pacifique qui navigue de cette façon, parce que pour eux, c'est tout ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire que pour eux, les navigateurs, donc il y a tout un processus pour devenir navigateur, ils doivent être choisis, je le montre dans le livre, etc. Oui,
c'est
ce que
je te raconte.
Mais pour eux, c'est une évidence, les navigateurs ont cette capacité-là. Ils se posent pas la question, ça a toujours été comme ça.
T'as cette capacité, alors t'es navigateur.
Alors t'es navigateur, depuis tout petit à l'école, ils savent, ils côtoient les navigateurs, ils savent que c'est une chose possible, que c'est comme si, dans ta classe, il y a trois violonistes, tu te dis, c'est possible d'apprendre à jouer au violon. Donc, dans cette tribu, c'est ça.
C'est naturel.
Pas toute la tribu, mais il y a des élus dans la tribu qui sont capables de faire ça. Donc c'est une chose complètement.
D'autres qualités.
Voilà, absolument.
Ouais. Et tu, toi, par rapport à justement cette mission, cette raison d'être qui est d'élever les consciences, t'as l'impression que t'en fais assez, tu te sens, est-ce que tu peux te mettre de la pression? Ça, c'est vraiment sur ton rôle d'humain, d'auteur, parce que notre vie, tu vois, enfin, notre vie, elle est courte, quoi. Le temps, il est limité ici. Est-ce que t'as l'impression que c'est assez ou comment tu te sens? C'est juste, tu te mets pas de pression, c'est cool, t'arrives à être bien avec ça, écrire ça suffit ou comment tu vois les choses?
En tout cas, je me mets pas de pression, c'est sûr. Ouais. L'avantage d'écrire, c'est que tu écris et ensuite c'est disponible. Donc,
et puis c'est disponible à vie, quoi.
C'est pas moi qui vais ensuite aller faire du porte-à-porte pour dire aux gens, il faut absolument que tu lis ce livre, ça va t'aider, après. Mais je mets à disposition des textes où je permets aux gens de passer un moment tout en contribuant à l'élévation des consciences. Donc, de ce côté-là, j'estime que je fais mon travail.
Ouais.
Après, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que il me faut des lecteurs, il me faut un éditeur, il faut des libraires qui vendent mes livres, et je n'ai pas du tout la maîtrise sur combien de personnes vont lire ces livres. Ça, c'est une chose que j'ai dû apprendre à lâcher le contrôle, quoi. Je fais mes livres, je les fais vraiment en pleine conscience, du mieux que je peux. Je passe beaucoup de temps. Chaque phrase est relue une dizaine de fois, pour être sûr qu'elle ait la bonne tournure. Mm-hmm. Après, je passe des jours et des jours à choisir la couverture, la quatrième de couverture, pour donner envie, pour attirer les gens, pour se dire, sentez ce qu'il y a dans ce livre, quoi.
Ouais, tu mets toute ton âme,
toute mon âme dedans.
Tout ton cœur, ouais.
Puis après, à un moment donné, je mets encore toute mon âme pour faire des choses comme on fait maintenant, c'est-à-dire en parler, donner aux gens envie de le lire. Puis après, j'ai l'impression que c'est, de toute façon, c'est hors de mon contrôle. C'est-à-dire, je sais pas ce qui fait qu'un livre, tout d'un coup, il explose et tout le monde en parle et tout le monde les lit, alors que d'autres qui ont probablement tout autant de mérite, si ce n'est plus, reste assez confidentiel. Donc après,
comment tu fais pour lâcher prise par rapport à ça, tu vois? Parce que t'as fait ton boulot ou ce que t'as à faire. Parce que c'est pas très juste de dire ton boulot, c'est pas très valorisant. Ouais. T'as fait ce que t'as à faire avec tout ton cœur et après, c'est quoi? C'est à l'univers qui fait le reste, quoi. Enfin, tu vois, alors après, il y a une équipe est d'accord. Hein, chacun met son cœur dedans. Mais comment tu fais pour lâcher prise et avoir confiance, tu vois, sans te dire, il faut que ça marche.
Ouais, mais en fait, t'as pas tellement le choix. Si tu regardes les chiffres, si tu te dis, t'écoutes tous les problèmes de distribution, le fait que la plupart des librairies appartiennent à des grands groupes qui ont leur propre maison d'édition, qui vont mettre en avant, les livres qui leur rapportent le plus plutôt que les livres qui ont des messages les plus puissants, etc. Tu te dis, mais finalement, les dés sont déjà pipés d'avance,
finalement, t'écris pas, quoi.
Donc t'écris pas, tu le fais pas.
Ouais.
Alors, L'autre façon de faire, c'est d'aller dans la confiance, puis de se dire même si les grandes enseignes comme la Fnac ne vont pas faire un mur avec mes livres parce que c'est pas dans leur intérêt économique direct. Ouais. Si les gens veulent entendre ce genre de message, veulent lire ce genre d'histoire, à un moment donné, ils vont demander des livres et les libraires vont recommander parce que dès le moment où même s'ils ont choisi d'en prendre 10, c'est pas de faire un mur comme on fait avec le.
Ouais, ouais.
Je me souviens la fois où j'ai sorti mon premier livre, je suis allé voir à la Fnac à Lausanne. Il y avait deux de mes livres et puis il y avait un mur complet. C'était un livre d'une prostituée qui accusait Donald Trump de l'avoir maltraité ou elle s'appelle Stormy Daniel ou je sais pas quoi. Il y avait un mur complet, on voyait que ça. Et puis moi, un livre sur l'ouverture des consciences, etc. Il y en avait deux qu'il fallait chercher en rayon. Mais ben voilà, c'est nouveau. Moi j'ai foi en l'ouverture des consciences et je pense que à un moment donné, c'est les gens qui choisissent ce qu'ils veulent lire. Et moi, je mets à disposition. Après, je fais vraiment mon maximum et une fois que j'ai fait mon maximum, bah, je suis bien avec moi-même parce que je me dis c'est pas moi. De toute façon, je vais pas aller tordre le bras du directeur commercial de la Fnac. Donc, à un moment donné, si le livre se vend, ils vont se dire Pérou, c'est économiquement viable de le mettre en avant. Sinon, ton livre, il passe, il est au fond du rayon.
Ouais, et puis fais confiance au bouche à oreille, puis au lecteur qui va aller le chercher, quoi, parce qu'il a lu les précédents,
et qu'on lui en parle. Ouais, et puis surtout, là où je fais vraiment confiance, c'est en principe, je pense que c'est comme ça que j'ai réussi dans ce métier, c'est que une personne qui a lu un de mes livres a vraiment de fortes probabilités de le recommander à plusieurs autres personnes.
Oui, donc tes livres, enfin, je pense que tu peux vraiment faire confiance au lecteur pour que il le recommande. Puis en plus, on voit, tu sais, dans les commentaires sur Instagram, tu vois, en fait, ils ont hâte, en fait, de l'avoir dans les mains, quoi.
Ouais, ben voilà, moi, c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ben c'est vrai que c'est plus facile. Après, je te dis, je suis confiant. C'est plus facile d'être confiant au cinquième qu'au premier. Au premier, c'était.
Puis,
de toute façon, on est dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, pour sortir du lot, il faut vraiment faire du bon travail. il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Mais c'est vrai que là, on se parle à la sortie du cinquième et comme tous les autres ont quand même très bien marché, je suis assez confiant.
Ouais, puis bon, là, avec la couverture que tu as...
Elle est magnifique.
Ouais. En plus, il y a du doré, étonnant. Elle est juste, et puis ses couleurs. Enfin, bref, je spoil pas.
Voilà, il faut. J'ai un éditeur génial, et puis quand ils ont lu, quand la directrice éditoriale a lu le texte, elle m'a dit, on met le paquet. Donc ils ont décidé de faire une magnifique couverture et de mettre une dorure dessus. Oui. Enfin, donc ça tape.
Je pense qu'on voit aussi sur ce que tu partages et tous les photos que vous avez ensemble avec elle et tout ça, il y a vraiment, on voit qu'il y a une forme de complicité en fait ou de soutien, je sais pas comment on peut appeler, mais en tout cas de l'extérieur, je me dis waouh, c'est beau d'être soutenu comme ça en fait, d'être accompagné comme ça par son éditeur.
Oui, quoi, ouais, non, c'est très beau. J'ai beaucoup de chance. Et je les remercie. Je la remercie. C'est une belle relation qu'on a créée. Je pense que finalement on partage les valeurs qui sont véhiculées dans mes livres et que Charlène, la directrice éditoriale et toute l'équipe de Jouvence a la même mission de vie que moi.
Oui, donc, c'est ça. On voit la ligne éditoriale de Jouvence en fait.
Donc ouais, alors bon, eux, évidemment, ils font partie du groupe Alma Michel. Ils sont quand même soumis à la logique économique, hein.
Il faut
qu'ils payent leur salaire, qu'ils remboursent leurs emprunts, etc. Donc, Mais ils le font d'une manière ultra consciente et, ouais. Et du coup mes histoires rentrent parfaitement dans leur philosophie.
Ah ouais, c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023? T'as envie de quoi et comment? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi?
Voilà, tu vois, à la sortie d'un livre comme celui-ci, la seule envie que j'ai, c'est que il soit lu et relu par ouais. des centaines de milliers de gens. Donc oui, c'est ce qu'on peut me souhaiter pour un auteur qui a passé plus d'une année tout seul derrière son bureau à écrire ouais. une histoire, si ensuite elle reçoit un gros accueil du public, ça te met en joie d'une façon incroyable.
Ouais, je vois, c'était déjà en train de le vivre quand ouais. tu le racontes. C'est génial. Bah écoute, je croise les doigts,
moi aussi.
Et de toute façon, l'univers est derrière toi, parce que c'est la mission de l'univers aussi, tout ça, quoi.
Donc, ben, j'imagine, ouais. Ouais.
Merci beaucoup, David.
Merci à toi. C'était un plaisir.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires, ou encore votre entreprise. Car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.